Ton livre sort aujourd'hui, je l'ai sous la main. Il s'intitule « Ces Toulousains qui ont fait l'histoire ». Le journaliste Mathieu Arnel, que vous connaissez puisqu'il sévit sur nos ondes dans Audition Libre, eh bien, il en recense une cinquantaine de Toulousains qui ont fait l'histoire. Qui sont-ils? On va les passer en revue tout de suite. Bonjour Mathieu.
Bonjour Isabelle, bonjour à tous, merci de l'invitation. Avec l'équipe du Brigadier, donc avec Bénédicte Soula, Pierre Estournel et Anna Vandrine évidemment, que je salue.
Et ben voilà, Mathieu est un homme reconnaissant. Moi je suis très heureuse de vous recevoir Mathieu, aujourd'hui, jour de sortie de votre livre. Alors je dois le dire, hein, c'est un très beau livre, un très beau cadeau de Noël, pour ceux qui n'ont pas d'idée.
C'est un peu l'objectif.
C'est un peu l'objectif, pour les amoureux de Toulouse. Voilà. On apprend plein de choses, on découvre ou on redécouvre des personnalités. C'est une très bonne façon d'entrer dans l'histoire de la Ville Rose, de la Ville Rose est un peu élargie aussi, je crois. Hein.
Oui, enfin, c'est quand même globalement la Ville Rose, mais c'est la Ville Rose et le département. Et d'ailleurs, au départ, l'éditeur, Hubert Delobet, du Papillon Rouge Éditeur, voulait intituler le livre « C'est aux Garonnais qui ont fait l'histoire ». Mais je lui dis, je pense que ça sera pas hyper vendeur. Donc, c'est Toulousain, ça serait mieux. Et puis voilà. C'est parti.
Alors on va le feuilleter ensemble si vous voulez bien, Mathieu Arnel, ce matin. Vous l'avez dit, hein, l'édition c'est le Papillon Rouge, petite maison d'édition. C'est une commande vous a passée, ce livre. C'est quoi? C'est un condensé de l'histoire de Toulouse que vous nous proposez à travers des personnages?
Oui, on peut dire ça effectivement. Enfin, condensé, 50 portraits, donc effectivement, ça peut pas être exhaustif. D'ailleurs, ça s'appelle Ces Toulousains et pas Les Toulousains.
Exactement.
C'est des Toulousains parmi d'autres. On peut faire un volume 2 ou 3 ou 4.
Ah bah peut-être. On sait jamais. Ça va sûrement marcher. Ce livre, en plus de ça, il est circonscrit dans une période temporelle, fatalement.
Voilà. Oui.
Vous remontez jusqu'à quand?
Alors ça va du 15e siècle à aujourd'hui. Donc ça commence avec Clémence Isaure.
La fameuse.
Voilà, la légendaire Clémence Isaure, reconnue comme restauratrice des jeux floraux au 15e siècle, à la fin du 15e siècle, en 1484, jusqu'au dernier Dominique Baudis, évidemment, qu'on ne présente plus, qui était maire de Toulouse pendant 18 ans et qui est décédé en 2014. Donc voilà,
à peu près 500 ans d'histoire que vous retranscrivez dans ce livre. C'est quoi la période faste pour Toulouse? La période où Toulouse a été la plus pourvoyeuse d'hommes ou de femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes dans ce livre.
Oui,
la période faste.
Disons que ce qu'on appelle... communément l'âge d'or de Toulouse, c'est entre 1463, c'est-à-dire après le grand incendie qui a ravagé le centre-ville aujourd'hui historique de Toulouse, jusqu'en 1562, date dite de la délivrance de Toulouse, selon les catholiques, hein, puisque les protestants étaient, beaucoup de protestants étaient massacrés à cette époque, et c'est considéré comme le début des guerres de religion en France, hein, Toulouse, et puis il y a
d'autres
foyers.
Oui, c'est ce que vous m'aviez dit en préparant cet entretien.
Effectivement. Donc c'est l'âge d'or parce que ça correspond au commerce du pastel. Donc il y avait énormément de marchands pasteliers. Il y a encore des hôtels particuliers comme l'hôtel de Bernuy qui abrite le célèbre lycée Fermat, ou encore l'hôtel d'Assesa qui abrite les académies savantes et la fondation Bamberg. Voilà, c'était des hôtels particuliers qu'avaient érigé ces riches marchands pasteliers.
Alors 50 personnalités, donc beaucoup issues de cette période. Pas tant que ça en fait. Hein.
Non.
Pas tant que ça. Hein. On va y venir. On va y aller tout doucement, Mathieu.
Bien sûr.
Comment vous les avez choisis?
Je les ai choisis. Enfin, j'ai essayé d'avoir le spectre le plus large possible, hein, pour que voilà les futurs lecteurs et futures lectrices, on va dire picorent.
Ah oui, c'est un livre dans lequel on picore.
Au
gré de nos envies,
voilà,
exactement.
Au gré de leurs envies. Et d'ailleurs, voilà, ça correspond aussi à la philosophie de cette maison d'édition Héroltaise, qui est basée à Villeveyrac, donc dans le pays de Thaux, à 30 km de Montpellier, qui s'appelle le Papillon Rouge Éditeur. Donc voilà, on picore, on butine.
Ça a été facile à établir, à trouver. L'éditeur vous dit, il me faut 50 noms de Toulousains qui ont fait l'histoire. Les noms se sont imposés à vous facilement?
Oui, la plupart des noms se sont imposés facilement, même s'il y en a certains que au cours des mois de rédaction que j'ai amendé, que j'ai enlevé, d'autres que
ah
j'ai...
Ah oui, pourquoi? Finalement pas assez intéressant?
Non, ben parce que tout simplement au niveau des sources, parmi les 50, c'est vrai que personnalité, j'aurais voulu faire un portrait de Federica Monsenay en catalan, qui était la première femme ministre en Europe, ministre de la Santé et des Affaires Sociales sous le Front Populaire Espagnol, donc avant l'arrivée de Franco, et au pouvoir. Et qui a été une des figures de l'exil républicain espagnol en France, et notamment à Toulouse.
Bah oui, on est en pleine retirada.
Voilà, en pleine retirada. En plus, on célèbre les 80 ans cette année. Et elle est enterrée d'ailleurs pas très loin des studios de Radio Présence, puisqu'elle est enterrée au cimetière Rapace. Elle a été enterrée en 1994. Mais malheureusement, on a très, très, très peu de sources sur elle. Et
vous lui rendez hommage ce matin. Justement, comment est-ce que vous avez travaillé? C'était quoi vos sources?
Ah ben les sources, c'est évidemment des sources avant tout livresques, donc je me suis rendu assez fréquemment à la bibliothèque d'études et du patrimoine,
hein, oui, rue, à qui vous rendez, Périgord, vous
évidemment,
remerciez,
ouais. Voilà, qui est un peu quand même une mine assez extraordinaire, et puis j'ai évidemment rencontré alors soit des témoins ou des descendants, voilà, des différentes personnalités. Je pense par exemple à Christine Nangre, la fille de Lucien Vanel, qui est dans le livre, hein, Lucien Vanel qui était le premier chef double étoilé de Toulouse avant Michel Sarran.
Et oui, avant Michel Sarran.
Je pense également à Guy-Claude Rochemont, à Jean-Paul Gorce de la Cinémathèque, voilà, qui évidemment ont longtemps travaillé avec le fondateur de la Cinémathèque, qui était Raymond Borde.
Il y en a pour qui la famille est encore présente et a pu être une source d'information. Donc je suis avec Mathieu Arnal, hein, pour ceux qui nous rejoignent. On parle de son très beau livre qui sort aujourd'hui, c'est Toulousains qui ont fait l'histoire. Il y en a une cinquantaine.
50.
Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est
pas une cinquantaine, 50.
Il y en a 50 piles. Il y en a pile poil. Alors, voilà. Il y en a pile poil. Il faut rester précis. Alors, justement, voilà. J'allais vous demander la parité. Est-ce qu'elle est respectée? Je l'ai pas.
Malheureusement, non.
Ah.
Je fais plus qu'amende honorable. Enfin, en tout cas, amende honorable. Non, oui. Ah, ben, sur les 50 portraits, il y a une large majorité d'hommes, hein, puisqu'il y a 39 hommes et 11 femmes. Mais là, malheureusement, c'est aussi le reflet de l'histoire. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'aurais voulu évoquer plus de personnages féminins, comme Federica Monsoni ou d'autres, mais après voilà, j'ai.
Et pourtant, il y en a des très beaux, hein, pardon, hein, des portraits de femmes, on va y venir. Alors, il y a les connus de tous, hein, dans ce livre, hein, que l'on picore au gré de nos envies. Il y a les Riquet, les Latécoère, les Jaurès. Et puis, il y en a des beaucoup moins connus ou qu'on n'associe pas forcément à Toulouse. Est-ce que vous en avez découvert, vous?
Ah oui, bien sûr, j'en ai découvert. Ben, par exemple, les sœurs Carita.
Ah, j'ai beaucoup aimé les sœurs Carita.
Voilà,
très bien. Alors, racontez-nous l'histoire des sœurs Carita.
Oui, rapidement. Eh ben, les sœurs Carita, elles étaient évidemment donc originaires de Toulouse. Elles ont fondé, elles ont créé leur premier salon en 1931 rue du Thor.
Mais c'est incroyable.
Et c'est vraiment dès le départ, on va dire, c'est une sorte de success story. Hein.
Ah oui, mais très au début du XXe siècle quand même.
Voilà. Et en fait, voilà, comme elles avaient quand même énormément de succès, donc elles ont ouvert un second salon plus huppé à Place Wilson, où notamment pendant la guerre des artistes de renom venaient se faire coiffer comme Miss Tinguette, comme Joséphine Baker, etc. Et à partir de 1943, ben, elles ont quitté Toulouse et puis voilà, elles ont conquis Paris.
Elles sont montées à la capitale.
Voilà,
elles sont montées à la capitale et aujourd'hui, je crois, c'est ce que vous dites dans votre livre, hein, la société Carita fait partie de du groupe de L'Oréal?
Maintenant, oui, ça a été racheté. Enfin, il y a eu
beaucoup d'histoires,
beaucoup de péripéties, mais effectivement, l'entreprise, enfin, l'Empire Carita appartient maintenant au géant L'Oréal, oui.
Incroyable cette histoire de femme. Alors moi, j'ai découvert aussi le peintre Henri Martin.
Oui.
Le peintre Henri Martin, qui n'est pas le Henri Martin du Monopoly, je croyais au départ, hein, mais rien à voir. L'avenue Henri Martin, c'est à Paris. C'était un historien, maire du 16e arrondissement. Là, c'est le peintre Henri Martin.
Oui.
Un peintre contrarié au départ.
Enfin, contrarié, non, c'est ce que je dis. En tout cas, ça commence, on va dire, de façon ironique, parce que effectivement, il dit surtout, empêchez vos enfants
de devenir artistes.
Mais ça, c'était aussi une petite pique par rapport à son père, qu'il adorait, hein, qui était un modeste ébéniste du quartier Saint-Michel, du faubourg Saint-Michel. À l'époque, c'était vraiment un faubourg et non pas le quartier qu'on connaît aujourd'hui. Donc, c'était un quartier, extrêmement populaire, populo même. Et donc, en fait, voilà, à force de volonté, de travail et aussi de talent, parce qu'évidemment il avait énormément de talent. Henri Martin a étudié aux Beaux-Arts et ensuite.
Quelle époque Henri Martin?
Il est né en 1860, il est mort en 1943, il est mort dans le Lot d'ailleurs.
Donc il a connu les grands noms de la peinture en plus, hein.
Il a connu les grands noms de la peinture et puis c'est l'un, on va dire, des décorateurs officiels de la Troisième République. Alors à Toulouse, il y a pas mal de tableaux qui sont signés Henri Martin. Il y a la salle Henri Martin aussi.
Ouais.
Et puis à Paris, bon, il y a nombre d'œuvres qui sont signées d'Henri Martin, notamment au Conseil d'État, etc. Donc oui, c'était un peintre éminemment important.
Alors votre préféré à vous, après moi je vous dirai le mien, votre préféré à vous c'est qui?
Ah, c'est difficile.
Ah bah oui, j'imagine, mais
c'est Cornélien.
Il va falloir vous
Non, mais si je devais en citer, allez, un chez les hommes et une chez les femmes. Bon, là, c'est évidemment totalement subjectif, mais bon, je les aime tous à leur manière, évidemment.
Bien sûr.
Mais chez les hommes, je dirais Armand Duportal, le journaliste polémiste.
Oui. Vous vous identifiez un peu, avouez.
Bah oui, parce qu'il a combattu...
Alors, présentez-le-nous, parce qu'il n'est pas forcément connu de tous. Hein.
Oui, bah oui. Alors, il y a une artère, il y a un boulevard qui porte son nom à Toulouse. Ouais. Hein. Mais alors, Armand Duportal... c'était au départ un fonctionnaire qui travaillait le long du canal du Midi, qui était receveur le long du canal du Midi, et puis en fait voilà, il a toujours eu cette passion pour le journalisme et pour la presse, à une époque où c'était vraiment pas évident, puisqu'on est à la fois sous la monarchie de Juillet puis ensuite sous le Second Empire. Il devient journaliste puis ensuite rédacteur en chef de l'Émancipation, hein, donc un journal d'opposition à Louis-Philippe puis ensuite à Louis-Napoléon Bonaparte. Et voilà, et donc le 3 décembre 1851, donc le lendemain du coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte, il signe une tribune extrêmement virulente avec la plupart de ses amis et confrères de la place toulousaine pour dénoncer ce coup d'état, ni plus ni moins. Évidemment, ça plaît pas et il est arrêté. Et il est déporté en Algérie, voilà, puisque évidemment l'Algérie était un département français, donc et voilà. Et après, bon, il revient en grâce en janvier 1853, parce que donc Louis-Napoléon Bonaparte, devenu entre-temps Napoléon III, le gracie à l'occasion de son mariage avec l'impératrice.
Et ben moi je vais vous dire le mien, mais il va falloir aller vite parce que malheureusement.
Et chez les femmes peut-être
le temps
rapidement.
Presse. Oui, mais vous, oui. Moi je voudrais quand même que vous nous parliez des petites filles modèles que vous avez retrouvées.
Oui.
Ah bah oui, c'est la petite fille en moi qui sommeille évidemment. Camille et Madeleine en fait sont à Toulouse.
Camille et Madeleine de Malaret, tout à fait, effectivement, elles sont enterrées à Verfeil, donc pas très loin de Toulouse.
Incroyable cette histoire. Les vraies petites filles modèles de la comtesse de Ségur.
Les filles modèles de la comtesse de Ségur qui était leur vraie grand-mère.
Ouais.
C'est assez drôle effectivement, et ça parle, je pense, à beaucoup de monde, puisque comme vous le dites, ça parle à l'enfance. Voilà, là, les livres de la bibliothèque rose. En fait, voilà, le mari de la comtesse de Ségur était un grand ami de l'éditeur Louis Hachette, et c'est comme ça qu'elle a pu éditer voilà ses romans pour enfants, dont ses contes, où elle a mis en scène notamment ses petites filles préférées. C'était vraiment ses petites filles préférées en l'occurrence. Et après, on connaît l'histoire et le succès qui en a découlé, quoi.
Alors, d'autres femmes, il y en a. La première, c'est Clément Cizor, vous en avez parlé,
oui.
Qui est en fait un mythe.
C'est un mythe, oui. Elle, alors justement, il y a 49 personnalités hommes-femmes qui ont existé, mais elle, c'est le seul mythe, effectivement.
Autre mythe, mais en même temps avec une part de réalité, il y a la fameuse, il y a la belle Paule.
La belle Paule, oui, Paule de Viguier, alias la belle Paule, tout à fait, qui était considérée comme la plus belle femme de son époque, enfin en tout cas à Toulouse et dans le sud de la France.
A-t-elle été l'amante de François Ier ?
Non, quand même pas. Non, elle était toute jeune, enfin quand François Ier effectivement arrive à Toulouse, notamment pour remercier le marchand pastelier Bernuy, qui a été un de ceux qui a payé sa rançon, puisque François Ier avait été prisonnier de l'empereur Charles Quint. Voilà, elle appartenait à l'aristocratie toulousaine, hein, cette Paule de Viguier, et donc elle lui remet symboliquement les clés de la ville à l'entrée de la ville, donc qui était Arnaud Bernard à l'époque. Il y avait une porte Arnaud Bernard, et donc la légende, là aussi, on est toujours dans la légende, dit que François Ier, en s'exclamant devant voilà, cette belle jeune femme aurait dit, cette belle jeune adolescente aurait dit « Ah, la belle Paule !» Et l'expression voilà, a fait floresse à travers le temps. Et, voilà.
Et elle est restée, elle a donné son nom à une rue à Toulouse. Il y en a beaucoup, hein, les Fitte aussi qui a donné son
Charles
nom.
De Fitte, tout
Charles
à fait.
Charles de Fitte, José, oui. Cabanis, Sorano. Mm. On n'a évidemment pas le temps, on doit déjà se quitter. Il faut vraiment se procurer ce livre. Ça s'appelle « Ces Toulousains qui ont fait l'histoire ». C'est aux éditions Papillon Rouge. Mathieu Arnal en est l'auteur. Il y a une femme dont on n'a pas parlé, on n'a plus le temps. C'est Anne Image, votre professeur d'histoire,
oui,
en première et terminale.
Je lui dédie ce livre, effectivement.
Vous lui dédicacez ce livre et vous lui devez probablement votre passion. On la remercie car on lui doit ce bel ouvrage. C'est Toulousains qui ont fait l'histoire, édition Papillon Rouge. Il coûte 19,90 €. Merci Mathieu.
Merci Isabelle, merci à tous.